À chacun, bienvenue à vous tous et en particulier à vous qui nous visitez ce matin. Dimanche dernier, dans l'introduction à notre culte, nous avons lu le psaume 8 et je n'ai pas eu suffisamment de temps parce que c'était une introduction de vous dire tout ce que ce psaume m'avait apporté lorsque je l'avais lu et préparé pour notre culte. Alors je vous invite ce matin à reprendre ce psaume, psaume 8, et à ouvrir donc vos Bibles au psaume 8e. Si vous avez une Bible édition protestante, eh bien, il y aura le psaume 8 et le psaume 9. Et si vous avez une Bible édition catholique, le psaume 8 intégrera aussi le psaume 9. Il y aura donc un décalage de numérotation à partir du psaume 10. Mais nous lirons le psaume 8, c'est-à-dire les 10 premiers versets de ce psaume 8. Je vous invite à en écouter la lecture maintenant. Au chef de chœur, sur la guttite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu? Et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce psaume, je dirais qu'il est la quintessence, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus pur de l'Évangile, du message de l'Évangile, bien qu'il ait été écrit 900 ans avant Jésus-Christ. J'y trouve dans ce psaume l'Évangile le plus pur. L'Évangile, bien sûr, c'est Jésus-Christ, avec sa vision du monde, un monde qu'il est venu racheter, avec sa vision de l'homme, un homme que Dieu a aimé et pour lequel Jésus est mort. Et bien sûr, Jésus-Christ, l'homme parfait, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, comme il avait l'habitude de s'appeler, celui qui est venu dans le but de mourir, de s'offrir par amour pour nous, pour notre rachat. Jésus est le lien, l'intermédiaire entre Dieu et nous. Paul dira le médiateur. Il nous montre le chemin, il est le chemin qui mène à Dieu. Eh bien, aussi surprenant que ça paraisse, et je vais m'en expliquer, je trouve tout cela dans ce psaume 8. Et je m'imagine David, le roi David, sortant sur sa terrasse un soir d'été, lever les yeux et contempler un magnifique ciel étoilé. À un autre moment de sa vie, peut-être sur cette même terrasse, David n'a pas regardé en haut, il a regardé en bas. Et il a vu une jolie femme qui se baignait. Et cela a été le commencement d'un péché abominable. Non pas la femme qui se baignait, mais lui dans sa tentation, concupiscence. Un adultère, d'abord, puis un meurtre. Et enfin, comme si rien ne s'était passé, un mariage en bonne et due forme pour cacher son forfait. Vous trouvez ça dans 2 Samuel, chapitre 11. Nous venons de chanter « Lève les yeux et contemple ». Quand on lève les yeux, et David ici, « Lève les yeux et contemple un spectacle grandiose, le spectacle d'une nuit étoilée. » C'est la lune et les étoiles que David ici regarde. Donc, c'est en pleine nuit. Et David a d'autres sentiments, bien sûr, plus nobles, en accord, en symbiose avec l'Esprit de Dieu. Et il compose ce poème, ce psaume. Et sans doute que comme lui, un jour, ou peut-être même davantage une nuit, vous vous êtes posé la question devant l'immensité sans borne d'un ciel étoilé, la question qu'on trouve au cœur de ce psaume, puisque ce psaume a divers versets, et au verset 5, on a cette question, qu'est-ce que l'homme ? Devant tant de grandeur, qui suis-je, moi qui suis si petit, dans l'immensité de l'univers ? Et le philosophe Pascal interroge de même, qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? David se pose donc la question, qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu penses à lui, toi Dieu, tu te souviennes de lui. Et c'est la question que se pose tout le monde, tôt ou tard, à certains moments de sa vie. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais dans l'univers ? Qu'y a-t-il après la mort ? Qu'y a-t-il au-dessus de la création ? Et souvent, cette question reste sans réponse. Mais sans même s'en rendre compte, David donne la réponse à sa question qui se trouve à l'intérieur de ce psaume. Alors tout d'abord, et vous l'avez sans doute remarqué, c'est facile à remarquer, ce psaume commence et se termine par la même phrase. C'est un copier-coller, comme pour encadrer, comme pour donner des limites à la réflexion. Enfin, cette question, qu'est-ce que l'homme ? Et cette phrase est celle-ci, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Voilà la limite que devrait se donner l'homme en réponse à la question, qu'est-ce que l'homme ? Car si l'homme a été créé par Dieu, c'est bien pour être en relation avec lui. Et le drame aujourd'hui, c'est que l'homme s'interroge, l'homme réfléchit, l'homme donne des réponses, mais en évacuant Dieu de sa réflexion. J'ai lu il n'y a pas longtemps ce petit livre que je vous recommande, qui a été écrit pour des adolescents, mais parfois même pour un adulte comme moi, et pas toujours facile à lire. « Apprendre à vivre » de notre ancien ministre de la Culture, le philosophe Jules Ferry. Luc Ferry, pardon, oui, Jules Ferry, c'était quelqu'un d'autre, merci. Mais pareil, c'est son ancêtre, il est descendant de Jules Ferry, mais c'est Luc Ferry, voilà. « Apprendre à vivre », tout un programme, c'est en fait le programme de la philosophie. Et de façon assez intéressante, Luc Ferry est très favorable au message de l'Évangile. Jésus est pour lui un exemple dans sa façon de vivre et aussi dans la philosophie que Jésus a enseignée, qu'il a véhiculée. Mais il ne retient que la philosophie ou le message de Jésus, morale, l'éthique, en en enlevant tout le côté spirituel. Et à la fin de son livre, et c'est à Tristan, il dit « Cette sagesse-là existe, c'est la sagesse de la philosophie élaborée par les philosophes d'hier et d'aujourd'hui. Cette sagesse-là existe, elle constitue le couronnement d'un humanisme enfin débarrassé des illusions de la métaphysique et de la religion. » Une philosophie débarrassée de la religion, on prend ce qui nous intéresse et on laisse ce qui ne nous intéresse pas et qui fait pourtant le cœur de la sagesse, de la philosophie de Dieu. Alors notre psaume commence par dire qu'il y a non seulement un Seigneur, mais que ce Seigneur peut être notre Seigneur. C'est le cadre. Toute autre tentative de réponse qui évacue le Seigneur à la question « qu'est-ce que l'homme ?» est faussée, car elle sort de ce cadre que Dieu a imposé à sa création, puisqu'il en est l'auteur, le créateur. C'est pourquoi toute philosophie qui tente de répondre à cette question en faisant abstraction de Dieu sera toujours bancale, imparfaite, contestable. C'est comme si vous confiez votre santé à votre garagiste. Mais il est bon mécanicien. Il a fait ses preuves sur votre voiture. Alors, s'il a réussi à réparer votre voiture, ne peut-il pas faire de même avec votre corps, qui est de toute façon une belle mécanique, bien huilée? C'est stupide, n'est-ce pas? Personne n'irait voir son mécanicien pour lui demander de le guérir de sa maladie ou pour le réparer. Ça m'est pourtant arrivé une fois. Enfin, pas tout à fait. Petite anecdote. Vous savez sans doute que j'ai un fils à qui il manque une jambe et il a donc une prothèse pour marcher. Et un jour qu'il était petit, dans la cour de récréation, sa prothèse s'est cassée. Elle était à 180 degrés. Et comme il avait un pantalon, ses petits copains, en fait, ne s'étaient jamais aperçus qu'il avait une prothèse. Ils étaient tout effarés parce qu'il ne criait pas, il ne pleurait pas. Et il a dit, mais vous en faites pas, mon papa va la réparer. Alors la maîtresse m'a appelé parce qu'il ne pouvait plus marcher. Et en fait, j'ai amené la prothèse chez mon garagiste parce qu'il y avait une soudure à faire. Et mon garagiste m'a dit, écoute, moi, je n'ai pas vraiment le matériel pour souder, je vais t'envoyer chez un autre garagiste. C'était un garagiste de camions. Et il y avait des mécaniciens avec les mains pleines de graisse. Et un de ces mécaniciens a pris cette petite prothèse, a regardé son chalumeau qui faisait une flamme comme ça, et a dit, écoutez, si je commence à souder, je vais tout détruire. Il n'y aura plus de prothèse du tout. Alors il a fallu que j'aille à Lyon chez l'orthopédiste qui lui a fait une bonne réparation. Voilà, on ne répare pas une prothèse avec un chalumeau de garagiste. On ne va pas voir son mécanicien lorsqu'on est malade. Et pourtant, n'est-ce pas un peu ce que l'on fait quand on confie sa vie à des philosophes qui d'emblée évacuent Dieu de leur réflexion. David connaissait son Dieu, éternel notre Seigneur. Et pour lui, Dieu était magnifique. Le mot ici traduit par magnifique peut être traduit par formidable, majestueux. Eh bien oui, Dieu est formidable. Pour qui le connaît ? Non seulement dans la grandeur de sa création, mais dans son amour, dans sa bonté envers nous. Et ceux qui le connaissent peuvent témoigner qu'effectivement, Dieu est un Dieu formidable. Voilà donc le cadre. Le cadre qui entoure, qui encadre la réflexion de ce psaume qui est une réponse à cette question. Qu'est-ce que l'homme ? Devant ta grandeur, Seigneur. Et la première pensée qui vient à l'esprit de David concerne la façon dont Dieu confond ceux qui s'opposent à lui, ceux qui ne veulent pas de Dieu, par la bouche des enfants et des nourrissons. Nous avons là, on pourrait dire, tout l'Évangile. L'Évangile qui est adressé non pas aux orgueilleux, aux puissants, mais aux humbles, aux petits, dont l'exemple, et c'est l'exemple que Jésus donne, qu'il prend, est l'enfant qu'il met au milieu du cercle des adultes pour dire « voilà comment vous devez être si vous voulez être mes disciples ». Ce verset 3, « par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force, etc. » est repris par Jésus dans Matthieu chapitre 21, verset 16, lorsque des pharisiens critiquent ce que Jésus fait, s'opposent à ce que Jésus fait et ne comprennent pas que Jésus est venu pour guérir, pour sauver, pour faire du bien. Alors ces pharisiens, ces religieux de son pays le méprisent. Et c'est à ce moment-là que Jésus prend un enfant et dit, eh bien voilà, si vous méprisez ce que je fais, voilà, ces enfants reconnaissent, louent Dieu pour ce que je fais. Les enfants avaient reconnu, ils louaient Dieu, la puissance de Dieu manifestée par Jésus-Christ. Et dans ce psaume, Dieu se laisse trouver par les faibles, par les petits, et non par les orgueilleux, ceux qui se croient suffisamment forts pour se passer de Dieu, comme les philosophes du style Luc Ferry. Et ce sont ces petits, souvent méprisés, persécutés, qui forment le peuple de Dieu et qui donc imposent aux ennemis de Dieu la louange qu'ils font monter vers le Seigneur. Qu'est-ce que l'homme ? Eh bien, c'est celui qui est suffisamment humble pour reconnaître son besoin de Dieu, pour se confier humblement en lui. Voilà déjà une première ou une deuxième réponse. La première étant ce cadre dans lequel il nous faut réfléchir à cette question. Le prophète Michée, chapitre 6, verset 8, dit ceci, vous connaissez sans doute cette parole, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » On trouve cette même pensée dans l'Évangile. Jésus est venu pour les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui ont un esprit d'humilité, qui sont prêts à accepter la parole de Dieu transmise par Jésus et par les apôtres, ceux qui mettent, comme les enfants, leur confiance en Dieu et qui suivent le Seigneur comme leur père, comme un enfant suit son père. Voilà ce que ce psaume nous dit au verset 3. Qu'est-ce que l'homme ? Eh bien, le vrai homme, aux yeux de Dieu, c'est Jésus-Christ, l'homme parfait, l'homme qui n'a pas failli, l'homme sans péché. Le second Adam, comme dira l'apôtre Paul, en le comparant à ce premier homme qui, lui, a failli, a désobéi, a péché. L'homme parfait, c'est Jésus-Christ. Alors, vous me direz peut-être, mais comment le psaume 8 parle-t-il de Jésus-Christ, de l'homme parfait? Je ne le vois pas dans ce psaume 8. C'est vrai, vous ne le voyez pas, moi non plus à une première lecture, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux, lui, il a vu Jésus-Christ dans les versets suivants, verset 6 au verset 9. Il a vu Jésus-Christ. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament et que le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. cela forme un tout. Et si nous n'avons que le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament, nous n'avons pas toute la révélation de Dieu, et encore moins si nous n'avons que l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament. Encore le philosophe Pascal, parce que lui au moins, Pascal, il tenait compte de ce cadre qui était Dieu. Sa philosophie s'inscrit dans une pensée qui révère Dieu et qui tient compte de Dieu, non seulement dans la création, mais dans la vie de l'homme. Pascal, Blaise Pascal, a dit ceci: « Jésus-Christ, que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. » Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que nous ne connaissons pas, on ne peut pas le nommer, lit ce psaume 8 à la lumière de Jésus-Christ. Et nous allons lire quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. Du verset 6 au verset 7, il cite le psaume 8, une partie, versets 3 à 6, avec d'autres mots, peut-être, que ce que nous avons dans le psaume 8, parce que les chrétiens du 1er siècle, ceux du Nouveau Testament, avaient l'habitude de lire l'Ancien Testament dans la traduction grecque, qu'on appelle la traduction des Septante, d'où quelques petits changements de mots. Et ensuite, au verset 8, on lit ceci: « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Mais les pieds de qui ? Les pieds de l'homme. « En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été fait un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. » Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Jésus, Jésus. L'auteur de cet épître aux Hébreux applique ces paroles à Jésus en disant, eh bien, il y en a un, à qui toutes choses seront véritablement, réellement soumises. Alors, on ne le voit pas encore que toutes choses sont soumises à Jésus, mais un jour viendra où tout lui sera soumis. Et dans cette lecture, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus remplit pleinement, parfaitement, les données qui concernent l'homme en général, cette soumission qu'il doit exercer, parce que si les animaux nous sont soumis, tout ne nous est pas soumis, le mal est toujours là. L'homme a failli. Il est pécheur, il est mortel, mais Jésus, lui, domine ou va dominer sur tout. Il a vaincu la mort. Jésus est donc l'homme parfait, celui que nous aurions dû, à l'image duquel nous aurions dû être si le péché n'était pas venu entacher notre existence. Et il est ainsi notre seul sauveur, celui qui nous rétablit dans la communion avec Dieu pour l'éternité. Cette communion que Adam et toute sa descendance dont nous sommes, Adam, le premier homme, a rompu par sa désobéissance. Alors, bien sûr, David ne s'exprime pas de cette façon-là. Il parle, bien sûr, de l'homme et de la création qui est soumise à l'homme. Et quand on parle d'écologie, on ne dit rien d'autre que cela. Nous devons maîtriser ce que nous faisons et veiller à la création. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux lit le psaume 8 à la lumière de Jésus-Christ, comme le préconisait Pascal. L'homme a besoin d'être sauvé. Jésus, son rédempteur, son sauveur, l'homme parfait, a donné sa vie pour que l'homme vive éternellement et retrouve la place que Dieu a voulu pour l'homme dans la création, place qu'il a perdue par son péché. Qu'est-ce que l'homme donc ? C'est un homme sauvé par Jésus-Christ, C'est un homme qui accepte que Jésus est l'homme parfait et que Jésus accomplit les promesses, les prophéties de l'Ancien Testament. Alors je conclus avec cette même question. Qu'est-ce que l'homme qu'on trouve au centre de ce psaume 8 ? Qu'est-ce que l'homme ? C'est celui qui reconnaît la grandeur, la puissance, la magnificence de Dieu et qui peut l'appeler son Dieu, éternel notre Seigneur. Mais là encore, vous remarquez que David ne dit pas « éternel mon Seigneur ». Il dit « éternel notre Seigneur ». En fait, il s'exprime tout seul. C'est lui seul qui écrit ce poème. Parce que, et nous sommes là, je pense, notre présence le prouve, nous faisons partie d'un peuple. Nous ne sommes pas seuls avec Dieu, comme nous ne sommes pas seuls sur la terre, nous faisons partie d'une communauté humaine et nous faisons partie, ou nous devons faire partie, d'une communauté chrétienne. Et notre rassemblement ce matin exprime bien que nous ne nous contentons pas d'appartenir ou de louer Dieu tout seul, mais que nous le faisons communautairement, que nous le faisons ensemble, comme David ici le fait en disant « Éternel, notre Seigneur ». C'est au nom ou en s'exprimant avec le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance qu'il lance cette clameur « Que ton nom est magnifique sur toute la terre ». L'homme, tel que Dieu aimerait qu'il soit, tel qu'il devrait être, c'est celui qui est assez humble pour accepter la parole de Dieu et pour accepter Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour le sauver, l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est Jésus qui nous donne une véritable vie selon Dieu. Et puis l'homme est appelé à participer à la victoire finale de Jésus-Christ. Car comme dit l'Épître aux Hébreux, si Dieu a soumis toute chose à Jésus ou à l'homme, nous ne voyons pas encore que tout lui soit ou leur soit soumis. Mais un jour, nous participerons à la victoire finale. Alors ce n'est pas la dernière trompette qui est en train de sonner, malheureusement. Mais un jour, la victoire finale de Jésus sonnera et tout lui sera soumis. Et il l'a déjà montré par sa résurrection, en montrant sa puissance sur le mal, sur Satan, sur la résurrection, en étant vivant de façon éternelle. Et ainsi l'homme retrouvera ce pourquoi il a été créé, mais seulement s'il met sa foi, sa confiance en Dieu et en son Sauveur, Jésus. Voilà pourquoi ce psaume a une portée prophétique et qu'il rejoint le message de l'Évangile que nous avons dans le Nouveau Testament. Alors pouvons-nous dire, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique ? Ou encore, peut-être pour mieux s'exprimer en français, parce qu'on ne s'exprime pas comme ça d'habitude, que tu es magnifique, éternel notre Seigneur, que tu es magnifique sur toute la terre. Magnifique non seulement dans ta grandeur, la grandeur de ta création, mais magnifique par ton salut, par ton amour, par ta victoire, par ce que tu rétabliras en enlevant le péché de la nouvelle création. Oui, Éternel, que tu es magnifique sur toute la terre. Une telle exclamation devrait nous remplir de joie et de louange adressée à notre Dieu, que personne d'entre nous ne s'en écarte, parce que le Seigneur veut que tous, ici présents et bien au-delà, bien entendu, nous participions à sa victoire et que déjà maintenant nous soyons cet homme, cette femme réconciliée avec son Dieu et qui vraiment porte le nom de homme ou de femme, comme le Seigneur le souhaite, et non pas, comme on le voit malheureusement, dans un monde qui refuse la parole de Dieu. Eh bien, que Dieu nous aide à être vrais avec le Seigneur et à pouvoir dire sincèrement au fond de notre cœur, « Oui, Seigneur, que tu es magnifique. » Amen.